Bonsoir, nous avons une émission bien remplie. Nous recevons les Archives lesbiennes du Québec et la chanteuse du groupe Those Trees. On commence tout de suite avec Laure Neuville et Daniel Chagnon qui travaillent aux Archives lesbiennes du Québec. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, ça consiste en quoi de travailler aux Archives lesbiennes du Québec?
On se doute bien toutes hein, qu'il y a des lesbiennes depuis longtemps, mais on en a peu de traces. On n'apprend pas l'histoire des lesbiennes à l'école, puis même quand on veut la trouver, c'est pas simple. Et on a la chance à Montréal qu'il y ait des archives lesbiennes depuis... En fait, les archives lesbiennes, à l'époque, elles s'appelaient les archives traces. Elles ont été créées en 82. Et donc, il y a plein de matériel qui a été archivé jusqu'au milieu des années 90. Les archives, ce premier collectif des archives a été actif. Puis donc, il y a plein de documents de toutes sortes qui ont été conservés. Et bon, après ça, ça a été un peu plus rock'n'roll, l'histoire des archives, pendant les années qui ont suivi, parce que, bon, plus de local, donc un peu plus difficile de les faire vivre et tout ça. Mais depuis 4-5 ans maintenant, il y a un nouveau collectif autour des archives qui s'est remis en place. Et donc, on est en train de... on a pas mal fini, en fait, de faire l'inventaire et de réorganiser tous ces documents-là qui, pendant plusieurs années, ont été ballottés un peu partout, déménagés, etc. Donc, voilà. Le travail qu'on a fait ces dernières années pendant la pandémie, c'est beaucoup de l'indexation, du classement, tout ça. Et on veut aussi organiser des événements de diffusion, dont un qui est la raison de notre présence ce soir, là, puis on va t'en parler plus tard dans tes autres questions.
Oui, absolument. Donc, c'est de trier tous les documents que vous avez depuis 1982, c'est ça?
Oui. Ce qu'on a fait ces dernières années, c'est ça. Après, il y a beaucoup, enfin, évidemment, plus de documents pendant la période où les archives étaient actives, c'est-à-dire les débuts des années 80 jusqu'au milieu des années 90 à peu près. Il y a eu quelques documents plus anciens. On commence à en recueillir des plus récents aussi parce que l'histoire, elle s'est pas arrêtée au milieu des années 90. Il y a encore des choses qui se passent dans la communauté, donc on continue aussi à garder la trace de tout ça parce que si nous, on le fait pas, je dis nous, mais pas nécessairement nous les archives, mais nous les lesbiennes, si nous, on garde pas la trace de notre histoire, je sais pas qui le fera, donc. Voilà.
Puis c'est important que ça ne disparaisse pas.
Voilà.
Puis ce qui m'importe beaucoup dans les archives, c'est de les rendre vivantes, c'est de les rendre visibles, beaucoup. Puis pour les lesbiennes d'avant, là, celles qui ont vécu certains des événements là, des années 80, 90 et après, mais aussi pour celles qui sont là aujourd'hui là, et qui peuvent peut-être trouver de l'inspiration, trouver du plaisir à regarder ce qui a été fait était fait avant. Et il y avait une vie riche, surtout dans les années 80. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup de documents de cette époque-là. Et ça nous permet de retrouver la mémoire. Je te dirais que je retrouve la mienne parce que j'y étais au tout début, dans les années 80, aux archives traces. Et bien souvent, je me rappelle pas ce que j'y avais fait. Et puis là, en travaillant sur des documents, je me retrouve aussi dans ces archives-là. Puis c'est le cas de beaucoup de lesbiennes qui ont accès à ça et qui retrouvent des traces de leur propre histoire.
Est-ce que ces archives là viennent à vous ou vous devez fouiller un peu pour reconstruire notre histoire? Comment ça fonctionne?
On avait un fonds qui était très riche, comme Laure le disait. On a pas mal tout ce qui a été ramassé dans les années 80 surtout, et des choses quand même plus récentes. Mais il faut les chercher, les documents. C'est sûr qu'ils viennent pas à nous facilement, bien que depuis quelques années, comme on est un petit peu plus connus, il y a des lesbiennes qui nous contactent et qui veulent nous offrir leurs archives, que ce soit des archives personnelles qui sont très importantes, là, qui documentent leur vie, mais aussi celles d'associations d'associations, de groupes, d'événements. Alors ça, c'est important que les lesbiennes pensent à nous laisser leur trace si on veut que celle de demain ben, puisse les retrouver.
Comme Laure le disait, vous êtes ici pour nous présenter votre premier événement dans le cadre du projet Les lesbiennes passent à l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ce projet-là?
Ben justement, c'est l'idée de faire vivre les documents des archives puis de continuer à recueillir soit des nouveaux documents, soit le contexte qui va autour des documents qu'on a. Donc l'idée, c'est de créer des activités pour que les lesbiennes viennent parler, enfin parlent de leur histoire et ou viennent écouter l'histoire des autres selon sur différents thèmes ou sur différentes périodes. Donc là, on en fait un premier cet été qui est sur les chorales, mais il y a plein d'autres thèmes qu'on pourrait aborder. Et donc, on a bien l'intention d'en faire d'autres sur d'autres sujets au fur et à mesure des mois et des années.
Oui, ben c'est ça, c'est un projet qui est arrivé un petit peu par hasard, parce que le hasard fait bien les choses parfois. C'est qu'en dépouillant toutes ces boîtes, comme Laure le disait, il faut passer à travers des milliers de documents qu'on a aux archives et on s'est rendu compte en faisant ce dépouillement-là, cet inventaire-là, qu'on avait beaucoup de choses sur les chorales lesbiennes des années 80 et qu'on avait par exemple des partitions musicales, on avait des enregistrements sonores, des concerts, de 5 concerts qui ont été donnés à cette époque-là, fin des années 80 et 90. Et on avait tout un dossier aussi avec les programmes de spectacle, avec la vie administrative ou la vie courante de ces chorales-là. Donc, c'était riche ce qu'on avait comme matière. Donc, c'était intéressant de préparer un atelier puis de non seulement de montrer ça, mais aussi de parler aux filles qui ont vécu dans ces années-là, qui faisaient partie des chorales. Donc, pendant l'activité, on a un panel avec plusieurs des filles qui étaient là à l'époque, qui vont nous parler de comment elles ont vécu ça, ce qu'elles faisaient. Il y a des compositrices, on va avoir la personne qui a dirigé la chorale, des choristes aussi. On invite toutes celles dans la salle, celles qui vont venir à nous en parler aussi, celles qui étaient spectatrices à l'époque de ces concerts-là.
Ou même d'autres choristes, parce que là, on a 5 personnes sur le panel, mais évidemment, dans les chorales, il y avait plus de monde que ça. Donc, d'ailleurs, il y en a déjà qui sont inscrites, mais bref, on invite aussi plus largement celles qui ont participé, qui ont envie d'en parler, à venir nous voir. Puis éventuellement aussi de d'autres chorales, parce que bon, ces chorales-là des années 80 étaient des chorales lesbiennes identifiées comme telles et tout ça. Mais après ça, il y a eu, par exemple, les Nanas ou d'autres chorales qui avaient, en tout cas, une forte proportion de lesbiennes dans le membership. Donc, c'est intéressant aussi de voir, puis tu sais, à la limite, où sont les lesbiennes qui chantent dans des chorales maintenant? Dans quelles chorales sont-elles? Est-ce qu'elles ont envie de venir en parler? C'est intéressant aussi. En tout cas, bref, voilà. C'est...
Oui, absolument. Vous avez même des archives musicales audio de ces chorales-là. J'aimerais ça qu'on en écoute un extrait. Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous voulez nous présenter?
Ben, moi, il y en a une chanson qui me touche beaucoup. Et à chaque fois que je l'écoute, je t'avoue que ça me rappelle tellement de beaux souvenirs. C'est la chanson Delta Plan qui a été composée par Daniel Boutet et dont l'extrait que tu vas présenter a été enregistré lors d'un concert en 1989 par la chorale d'Aodamia.
On écoute ça.
De rupture en
Nous sommes de retour avec Danielle Chagnon et Laure Neuville des Archives lesbiennes du Québec. Vous possédez plusieurs collections. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous avez en main?
Ben écoute, c'est très varié. Bon, comme disait Danielle, on a tout ce fond-là sur les chorales, mais on a des périodiques. On a par exemple Long Time Coming, qui est la première revue lesbienne au Québec, mais probablement même au Canada. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses. On a des t-shirts, on a des bannières de manifestation, on a des affiches, des cartes d'affaires de différents commerces de la communauté. Vraiment beaucoup de choses et pas que des papiers administratifs, on va dire.
Oui, vous avez pu aider aussi le réseau de lesbiennes du Québec pour la journée de visibilité lesbienne, parce qu'avec tout ce que vous possédez, je pense que c'était pour la ligne du temps.
Ben oui, effectivement, parce que la journée de visibilité lesbienne, le réseau l'organise depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, je sais plus exactement, mais les premières journées de visibilité lesbienne à Montréal, c'est les années 80, c'est 1982, je crois, la première.
Oui.
Et effectivement, il y avait des affiches, il y avait des programmes, des journées, il y avait des bilans même. Donc après les journées de visibilité lesbienne, il y a plusieurs années où les organisatrices ont fait une sorte de rapport de ce qui avait été dit pendant la journée, tout ça. Donc, ça donne toutes sortes de... Enfin, c'est des traces importantes. C'est à la fois, je trouve ça rassurant de se dire qu'il y a des sujets où on y pensait déjà, même si on a l'impression, par exemple, que le racisme ou des choses comme ça, on n'y était pas nécessairement très sensible dans les années 80 au Québec ou à Montréal. Ben, quand on regarde les titres d'ateliers, par exemple, qui étaient présentés aux journées de visibilité, clairement, en tout cas, dans la communauté lesbienne, ça fait longtemps qu'on s'en préoccupe. Et donc, c'est ça, c'est à la fois intéressant de voir ça, puis des fois un peu enrageant de voir à quel point ce qu'on disait il y a 40 ans n'est toujours pas...
Oui.
Ça n'a toujours pas devenu réalité. C'est un peu décourageant. Mais bref, c'est très intéressant, en tout cas, de voir ce qui a été fait dans la communauté au fil du temps.
Oui. Ben, il y a des choses qu'il y avait à l'époque qu'on a moins aujourd'hui. C'était des lieux.
Oui.
Même beaucoup de choses, comme Laure le disait, sur les lieux, les bars, entre autres, les bars de lesbiennes dans les années 80, les librairies qu'il y avait à l'époque, l'école Guilford aussi. On a les archives de RGS, le collectif qui gérait l'école Guilford. Donc, il y a beaucoup de matière de ce côté-là sur les lieux qui étaient occupés par les lesbiennes à l'époque.
Comment ça fonctionne si on veut participer à votre atelier pendant Fierté Montréal? Est-ce qu'on doit s'inscrire?
Donc, l'atelier, ça aura lieu le 30 juillet, le samedi 30 juillet. C'est le tout début des festivités de
oui.
La semaine officielle de Fierté. C'est à 14h au centre Saint-Pierre, donc dans le village.
12
rue Panet, près de... Enfin, le métro le plus proche, c'est Baudry. Et vu l'état de la circulation, c'est la meilleure façon de vous y rendre. Et ben idéalement, oui, on apprécie que vous inscriviez d'avance parce que ça va nous aider pour prévoir le buffet, la petite boisson à la fin, même ne serait-ce que pour disposer les chaises, les tables, tout ça dans la salle. Mais on prendra quand même les personnes qui se décideront à la dernière minute. Mais si vous pouvez vous inscrire, c'est bienvenu. Et il suffit de nous envoyer un courriel à l'adresse courriel des archives, qui est archive, A-R-C-H-I-V-E-S, donc archive au pluriel, L-Q, pour lesbiennes du Québec, @yahoo.ca.
Génial. On va se laisser avec une autre chanson de la chorale lesbienne. Je vous laisse nous la présenter.
Oui, ça fait partie d'un pot-pourri qui était... une des premières œuvres, en fait, qui a été faite par la chorale lesbienne en 1982. Donc, on retrouve plusieurs chansons qui ont été rassemblées par Marie-André Courval. Et ça a été chanté par la chorale lesbienne en 1984. Alors, c'est des petits extraits de ce pot-pourri qui dure une dizaine de minutes. Donc, on va vous en présenter quelques extraits.
Merci beaucoup à vous deux et au plaisir de se parler bientôt. Est-ce que vous allez revenir à l'émission sporadiquement pour nous parler de d'autres projets que vous avez, de collections aussi que vous procédez aux archives lesbiennes, ça serait intéressant de vous recevoir plus souvent.
Eh bien, ce sera avec plaisir.
Merci beaucoup. Bye bye.
Bye
bye. Bye. Qu'est-ce que dans ça, qu'est-ce que peut dire mon plaisir?
Nous avons le plaisir de recevoir Anne-Marie Soucy, chanteuse, guitariste et claviériste du groupe Those Trees, un band pop-rock alternatif entièrement féminin de Montréal que j'adore. Salut Anne-Marie.
Allô.
Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. La dernière fois, c'était en juin 2019. Très heureuse de te retrouver.
Oh wow, ça fait si longtemps que ça.
Oui.
Très heureuse aussi, même qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta présentation. Maintenant, on a une guitariste et puis moi qui joue la guitare.
C'est vrai? Donc, t'es claviériste et chanteuse?
Oui, et je pense que les gens vont reconnaître c'est qui notre nouvelle guitariste, c'est Tamara Weber.
Oui, qui est aussi auteure-compositrice-interprète.
Oui.
Wow! Comment vous avez décidé de collaborer ensemble?
Ben, c'est ma meilleure amie depuis plusieurs années. On s'est rencontrés sur le plateau de La Voix en 2014. Okay. Quand moi, j'étais à l'émission, puis elle accompagnait sa meilleure amie, Annabelle. Puis Tamara, elle avait fait La Voix l'année précédente. Puis on s'est rencontrés sur le plateau. Puis depuis ce temps-là, ben, on est super potes. Puis elle disait souvent en blague, « Oh, moi, mon rêve, c'est d'être guitariste dans un band de rock. » Mais Tamara, j'ai un band de rock. Puis là, ben, pendant la pandémie, on en a parlé. Puis là, elle est rendue dans le band.
C'est génial, ça.
Ouais, c'est vraiment cool.
Est-ce qu'elle contribue aussi à l'écriture des chansons?
Oui, oui, certainement. Elle amène son petit grain de sel, son gros grain de sel. Mais nous, on avait pas mal le troisième album assez entamé. Mais Tamara, elle amène sa touche à la guitare, là, puis éventuellement aussi par des back vocals. Là, j'adore sa voix. On avait plusieurs chansons en route pour le troisième album, puis les suivantes, on les écrit ensemble avec elle.
Donc, toi, t'es dans plusieurs... T'as Those Trees, t'as un autre band aussi?
Oui, j'ai un band, c'est In Saigon, mais on est en processus de changement de nom. On a lancé notre album au début de la pandémie, donc il n'y a pas eu de lancement. Le band, il y a un membre qui est parti, quelqu'un qui est arrivé, un autre qui est reparti. Bref, il y a eu beaucoup de mouvements, et puis là, on a décidé de se trouver un nouveau nom, puis de repartir la machine, mais le nom n'est pas encore décidé.
C'est un peu ça, le défi des bands, hein? C'est de garder tout son monde. Est-ce que Tamara, est-ce qu'elle remplace quelqu'un ou elle s'est ajoutée à l'équipe?
Ben, en fait, elle remplace un peu moi-même qui switchait entre la guitare et le piano en essayant de chanter puis parler entre les chansons, animer les concerts et tout. Mais moi, je jouais la guitare parce que c'était Marie-Ève qui était partie et Jacinthe avant ça qui était partie. C'était deux guitares. Donc, des deux guitares, on était tombés à zéro. Puis, tu sais, moi, j'avais pris des cours au secondaire il y a 20 ans. Fait que j'ai repris la guitare pour combler. Mais c'était compliqué, là, de changer entre le piano et la guitare. Donc, là, j'étais bien contente que ce soit Tamara, puis c'est une meilleure guitariste que moi aussi. Là.
Tamara continue ses autres projets solo aussi.
Ouais, Tamara Weber. Elle voulait aussi se pratiquer plus à la guitare, là, puis devenir plus une guitariste que de s'accompagner. Ben, moi, je trouve que c'est une excellente guitariste, là, mais elle voulait faire un projet où elle était plus guitariste que chanteuse. Donc voilà, c'est un rêve réalisé pour tout le monde.
Puis vous venez de lancer un nouveau single et un vidéoclip. Coudon, est-ce que vous avez pratiqué sur Zoom pendant la pandémie? Ou...
Ben, en fait, c'est notre manière de composer, elle se fait quand même bien à distance. Moi, j'écris des chansons de mon côté, piano-voix, puis Azalée aussi compose des chansons avec des paroles de son côté. Donc, on écrit nos instruments, on s'envoie nos enregistrements, puis on peut rajouter sur les chansons des autres. Ou des fois, Azalée écrit des chansons où elle compose le drum, ben, la batterie, la basse, les guitares, le piano, la voix et tout, là. Puis elle nous envoie une tune toute seule, toute mixée. Puis après, on réenregistre nos parties, mais c'est vraiment cool parce qu'Azalée aussi, elle est batteuse dans un band de métal qui s'appelle Bastards. Puis non, c'est ça, elle étudie en batterie, puis donc avec nous, elle joue de la basse, puis avec son autre band, elle joue de la batterie.
C'est génial quand même de pouvoir être dans plusieurs formations comme ça.
Oui, c'est ça, on est pas mal occupés, toute la gang. C'est ça, le clip puis le single. Ensuite, on s'est donné comme défi pour le troisième album qu'à chaque fois qu'on lançait une nouvelle chanson, un nouveau single, on lançait aussi un vidéoclip avec pour qu'il y ait un visuel avec la chanson. Parce que on a l'impression que les gens, ils prennent peut-être plus le temps d'écouter les chansons au complet s'il n'y a rien à regarder en même temps. Donc là, c'est le défi qu'on s'est lancé, mais on s'est tout produit puis on fait nous-mêmes nos vidéoclips aussi. Là. On s'enregistre nous-mêmes dans notre local. Tamara aussi est à l'université en musique. C'est Azalée qui nous mixe. Fait qu'on fait notre prise de son, on se mixe, c'est nous qui jouons, puis on se filme aussi, mais nos blondes viennent nous aider à nous filmer. Puis après ça, moi, je fais le montage. Moi, j'ai étudié en cinéma au cégep il y a super longtemps, mais j'adore faire ça. Donc, on fait notre processus créatif du début à la fin, tout nous-mêmes, DIY. Là.
Vous en avez quand même quelques-uns, vidéoclips. Vous êtes rendu à combien?
Ouais, oui. Ben là, on avait, pour le premier album, il y avait juste Mistress puis The Wind. Sur le dernier, on avait Stranger... Unspoken, qui était un vidéoclip de skateboard, que c'est juste des skateboarders. C'est Bill qui l'avait filmé puis qui l'avait monté. Puis là, on s'est dit, on a deux clips par album, c'est pas assez. Donc là, on s'est dit,
c'est moins des grosses productions, c'est nous qui le faisons nous-mêmes, donc c'est moins qualité plus, là, mais c'est au moins on lance quelque chose puis on est fiers de notre produit. Là, on a lancé en premier, c'était Slings and Arrows. Puis on l'a filmé dans notre local de pratique et les alentours. Là, il y avait un stationnement d'autobus scolaire. Puis on s'est dit, ah, ça pourrait être cool de faire des photos là. Puis là, on a vu qu'il y en avait un qui à la porte était ouverte. Donc on est rentré dedans. Moi, j'étais super stressée parce que je suis tout le temps direct dans la ville. On a filmé. Finalement, c'était super impromptu, mais on a filmé le vidéoclip dans l'autobus scolaire.
Votre photo aussi est dans un autobus scolaire?
Oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Puis après ça, on a fait Underachiever en studio. On a loué un local pour faire ça. Puis parce que Bill n'est plus dans le band, la batteuse. Donc, on avait une batteuse invitée qui est venue pour faire le vidéoclip de Underachiever. Et puis là, on en sort un autre. On en a sorti un. Après ça, Safe Inside. C'était un concert. C'était lors de notre dernier concert au Quai des Brumes. C'est nos blondes puis nos amis qui ont filmé avec leur téléphone. Puis on a fait un vidéoclip avec ça. Et puis là, on en sort un autre dans 2 semaines. Sur une autre chanson.
Wow, génial. Vous produisez vraiment beaucoup, hein, parce que j'imagine que vous travaillez à côté de ça aussi.
Oui, oui, toute la gang. Mais moi, j'étais éducatrice en CPE. Jacinthe, la guitariste, est éducatrice spécialisée. Azalée est dans un cabinet d'architecture, puis elle s'en va à la maîtrise en architecture en septembre. Puis Tamara est artiste à temps plein. Donc, oui, on est toute une gang de crinqués, là, je pense. On aime ça.
On va écouter une de vos nouvelles chansons, Underachiever, que j'aime beaucoup, et on revient avec Anne-Marie Soucy.
I'm getting tired, I'm a disappointment, feeling under the weather. I can't take the pressure, but I must love this mess, 'cause I do this to myself, yeah. It's all in my head. On me, I can't even tell what's real.
Nous sommes avec Anne-Marie Soucy du groupe Those Trees. Vous serez en spectacle le 6 août prochain au Quai des Brumes dans une formule 5 à 7. Est-ce que c'est votre premier spectacle de l'année?
Oui, c'est notre premier spectacle de l'année. Le dernier remonte à décembre. On était passé entre les mailles du filet quand ils ont tout refermé. Ils ont annoncé le vendredi que tout fermait. Nous, le samedi, on avait un show avant que tout ferme le lundi. Mais oui, c'est le premier show de l'année. On est vraiment, vraiment excités. Puis ça tombe pendant la fierté. C'est en 5 à 7, fait que les gens peuvent venir célébrer la fierté avec nous au Quai des Brumes, puis après ça, ils font leur activité de fierté. Non, on a vraiment, vraiment, vraiment hâte. Puis qu'est-ce qu'on aime du show en 5 à 7, c'est que c'est ça donne la possibilité aux gens d'aller faire autre chose après, mais aussi les enfants sont tolérés. Puis on a beaucoup d'amis qui ont des enfants, donc c'est cool qu'ils puissent venir à nos concerts.
Oui, absolument. Il y aura la Valérie qui sera la première partie du spectacle. Est-ce que tu veux nous la présenter pour celles qui la connaissent pas?
Oui, oui, je l'ai rencontrée à travers Tamara. C'est une de ses bonnes amies aussi, ancienne coloc. Puis, je suis allée voir un de ses concerts. Puis, je tombe en amour avec ce qu'elle fait comme musique. Là. J'adore sa compagne à la guitare électrique. Puis, elle chante en français. Et c'est super, super bon. Donc, quand je cherchais quelqu'un pour ouvrir, on a pensé directement à elle. Puis, j'ai vraiment hâte de la voir en spectacle avant nous.
Génial. On invite donc les gens à aller vous voir le 6 août au Quai des Brumes sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et si vous voulez en entendre un peu plus avant spectacle Those Trees sur YouTube. Vous avez aussi un Bandcamp, thosetrees.bandcamp.com et un Instagram, Those Trees Band.
Oui, c'est bien ça.
Merci beaucoup Anne-Marie d'avoir pris le temps de venir nous parler. On se reprendra avec tout le band en septembre pour en apprendre un peu plus sur chacune des membres du groupe.
Merci à toi.
On écoute The Missing Clue du groupe Those Trees et ce sera suivi d'une chanson de la Valérie qui assurera la première partie du groupe le 6 août prochain au Quai des Brumes.
fais ça comme une carapace, quand mon bonheur est en dentelle. Ta voix m'a surprise, elle a fait lever le plafond pour voir les enseignes.
Pour son musique avec Tamara Weber, la nouvelle guitariste du groupe Those Trees, qui est aussi auteur-compositrice-interprète, écoute une chanson tirée de son album Février, qui sera suivie d'une autre chanson de Those Trees, The Wind.
J'ai perdu du temps, je ne sais plus quoi dire. Pour compenser ma peur du vide, mais contre toutes les attentes, le bonheur ne m'avait pas poussé. On m'accuse d'indifférence, mon âme de navigant désert aride. C'est peut-être vrai quand j'y pense, mon amour, mon armure n'est pas invincible. J'ai perdu du temps, je ne sais plus quoi faire. On dit que le silence est d'or, mais si tu m'aimes encore, faudrait s'enfuir. On oublie tranquillement ce qu'on voulait devenir. Héros d'une chasse au trésor, méprise-moi si j'ai tort, mais je veux vivre avant. J'ai jamais pris le chemin facile. La route ne fait plus de sens. La marée haute, les cœurs se défilent. Mais peut-être que si tu chantes, mon âme sort, je dormirai tranquille. J'ai perdu du temps, je ne sais plus quoi dire. On dit que le silence est mort, mais si tu m'aimes encore, faudrait s'enfuir.
chains, forget them all.
On écoute Sandy Duperval avec Runaway et on revient pour la conclusion de l'émission. On vous rappelle que les Archives lesbiennes du Québec seront au Centre Saint-Pierre au 1212 rue Panay à Montréal le 30 juillet prochain. On vous invite à vous inscrire à Archives avec un S, LQ, à commercial, yahoo.ca. Et 12 Trees sera en spectacle 5 à 7 le 6 août au Quai des Brumes sur la rue Saint-Denis à Montréal. Merci d'avoir été à l'écoute. Sarah May sera avec nous pour l'émission du 1er août à 19h sur les ondes de CKUT. À bientôt. Temperature rising. Help me, I'm burning.
In the middle of rain.